Premier dialogue, Prométhée et Jupiter. Prométhée. Délivre-moi, Jupiter, il y a longtemps que je souffre des maux cruels. Jupiter. Te délivrer, dis-tu? Toi qui devais porter les chaînes encore plus lourdes, avoir tout le cocasse par-dessus la tête, et non seulement le foie dévoré par 16 vautours, mais les yeux crevés, pour nous avoir fabriqué les êtres appelés hommes, voler le feu et créer les femmes. Car de m'avoir trompé dans la distribution des viandes et servi des os recouverts de graisse pour te réserver la meilleure part, à quoi sert d'en parler? Et ne suis-je pas assez puni depuis le temps que je suis cloué au Caucase, nourrissant de mon foie un aigle que la pire mort puisse emporter? Ce n'est pas la millième partie de ce que tu dois souffrir. Cependant, si tu me délivrais, Jupiter, ce ne serait pas sans récompense, mais je te donnerais un avis tout à fait intéressant. Tu veux m'attraper, Prométhée? Et qui gagnerais-je? Tu saurais bien où est le Caucase, et tu ne manquerai pas de chaîne si je te tends quelques pièges. Dis-moi donc d'abord par quelle récompense si intéressante tu veux me payer. Si je te dis où tu vas en ce moment, te paraîtrais-je pour le reste un prophète digne de toi? Pourquoi pas? Tu vas trouver Thétis pour coucher avec elle. Tu as deviné? Mais que s'en suivra-t-il, car il me semble que tu vas me dire la vérité. Garde-toi bien, Jupiter, d'avoir commerce avec la Néréide. Si elle devient grosse de tes œuvres, son enfant te traitera comme tu as traité Saturne. Tu veux dire qu'il me détrônera? Puis cela ne jamais arrivé, Jupiter. Mais c'est l'issue qui menace tes amours avec elle. Adieu donc, Thétis. Que Vulcain te délivre pour prix de ton service. Deuxième dialogue, L'amour et Jupiter. L'amour. Oui, si j'ai commis quelque faute, pardonne-moi, Jupiter. Je suis encore un enfant, et n'ai pas l'âge de raison. Jupiter. Toi, amour, un enfant, mais tu es plus vieux que le Japet, parce que tu n'as ni barbe ni cheveux blancs, et c'est une raison pour dire que tu es un enfant, non. Tu es un vieillard, et un vieillard malin. Et quel grand mal t'a donc fait ce vieillard, comme tu dis, pour que tu songes à l'enchaîner? Vois, petit misérable, si ce n'est pas un grand mal que de m'insulter à ce point, qu'il n'y a pas de forme que tu ne me fais prendre, satyre, taureau, or, cygne, aigle. Tu n'as rendu aucune femme amoureuse de moi-même, et je ne sache pas que par toi j'ai su plaire à quelqu'une. Il faut au contraire que j'use d'enchantement avec elle et que je me cache. Il est vrai qu'elles aiment le taureau ou le cygne, mais si elles me voyaient, elles mourraient de peur. C'est tout naturel, Jupiter, elles sont mortelles. Elles ne peuvent donc pas supporter ta vue. Alors comment donc se fait-il qu'Apollon soit aimé de Brancus et d'Hyacinthe? Oui, mais Daphné la fuit, malgré ses beaux cheveux et son menton imberbe. Si tu veux devenir aimable, n'agite plus cette égide, ne porte plus cette foudre, rends-toi charmant, les cheveux tombant en boucle des deux côtés, et rattachés avec un bandeau. Prends une robe de pourpre, mets des chaussures d'or, marche en cadence au son de la flûte et des tambours, et tu verras s'avancer sur tes pas une troupe plus nombreuse que les ménades de Bacchus. Fui donc, je ne puis me décider à prendre pour titre aimable un pareil accoutrement. Eh bien, alors, Jupiter, renonce à aimer, c'est plus facile. Non, pas, je veux aimer, mais jouir plus commodément de mes amours, et ce n'est qu'à cette condition que je te laisse partir. Troisième dialogue, Jupiter et Mercure. Tu connais, Mercure, la jolie fille d'Inachus ? Mercure. Ah oui, tu veux parler d'Io ? Elle n'est plus fille aujourd'hui, elle est devenue génisse. C'est prodigieux ! Et de quelle manière ce changement s'est-il fait ? Oh, c'est la jalousie de Junon qui l'a ainsi métamorphosée. En outre, elle a imaginé un autre supplice contre cette malheureuse. Elle a placé près d'elle un bouvier à 100 yeux nommé Argus, qui fait paître la génisse et ne s'endort jamais. Qu'avons-nous donc à faire ? Descends jusqu'à Némé, c'est là que le bouvier Argus. Tue-le. Tu conduiras ensuite Io en Égypte à travers la mer, et tu en feras Isis. Qu'elle soit considérée comme une déesse par les habitants du pays, qu'elle fasse déborder le Nil et souffler les vents, et qu'elle sauve les navigateurs. Quatrième dialogue, Vulcain et Jupiter. Vulcain. Que faut-il que je fasse, Jupiter ? J'arrive sur ton ordre, armé d'une hache bien affilée, et qui pourrait au besoin couper une pierre d'un seul coup. À merveille, Vulcain, fends-moi la tête en deux. Tu veux m'éprouver ? Ou bien es-tu fou ? Donne-moi un ordre sérieux, dis ce que tu veux que je fasse. Je te l'ai dit, fends-moi la tête. Si tu désobéis, tu éprouveras une seconde fois ma colère. Mais il faut frapper de toutes tes forces et sans tarder. Je ne puis vivre avec la douleur qui me déchire le cerveau. Prends garde, Jupiter, que nous n'allions faire une mauvaise besogne. Ma hache est affilée, elle te fera venir du sang et ne t'accouchera pas à la façon de Lucine. Frappe toujours, Vulcain, ne crains rien, je sais ce qu'il me faut. C'est malgré moi, mais je vais frapper, car que faire quand tu l'ordonnes ? Que vois-je ? Une jeune fille, armée de pied en cap. Oh, tu avais là, Jupiter, un grand mal de tête. Il n'est pas étonnant que tu te sois montré irascible quand tu portais toute vivante sous la membrane de ton cerveau une jeune fille de cette taille, et celle-là, toute armée. Nous ne savions pas que tu avais un camp au lieu de tête. Mais vois donc qu'elle saute, danse la pyrrhique, agite son bouclier, brandit sa lance, et saisit d'enthousiasme. Ce qui est plus fort, c'est qu'elle est devenue tout à coup fort belle et bonne à marier. Il est vrai qu'elle a les yeux gris, mais son casque embellit ce défaut. Ainsi, Jupiter, pour prix de l'accouchement, donne-la-moi pour épouse. Tu me demandes l'impossible, Vulcain. Elle veut rester toujours vierge. Moi, cependant, je ne m'oppose pas à ce que tu désires. C'est tout ce que je demande, et le reste est mon affaire. Je vais l'enlever. Fais-le si tu veux, mais je sais que tu veux l'impossible. Cinquième dialogue, Jupiter et le Soleil. Jupiter. La belle équipée, oh le plus mauvais des titans, tu as tout détruit sur la terre en confiant ton char à un jeune fou qui en a brûlé une partie en s'approchant trop du soleil et qui a gelé l'autre en éloignant trop le feu. Enfin, il n'y a rien qu'il n'ait bouleversé, confondu. Si je ne m'en fusse aperçu et ne l'eusse foudroyé, il ne resterait pas un morceau d'homme. Oh, le beau cocher, le beau conducteur de char que tu nous as envoyé. Le soleil. Ah, j'ai eu tort, Jupiter, mais excuse-moi d'avoir cédé aux instances redoublées d'un fils. Pouvais-je prévoir qu'il en résulterait un si grand désastre? Ne savais-tu pas combien cet emploi exige d'adresse, que pour peu qu'on s'en écarte de la route, tout est perdu? Ne connaissais-tu pas la fougue de tes chevaux, auxquels il faut toujours tenir la bride serrée? Si on la leur rend, ils se dérobent d'aussitôt. Et c'est ainsi qu'ils ont emporté ce malheureux conducteur, tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt en sens inverse de la route, en haut, en bas, partout, où il leur prenait fantaisie, sans qu'il ait su que faire à tes chevaux. Je savais tout cela, et c'est ce qui m'a fait résister longtemps à mon fils et lui refuser la conduite de mes chevaux. Mais enfin, cédant à ses supplications, à ses larmes et à celles de Climène, sa mère, je l'installai sur le char en lui indiquant comment il devait se tenir ferme, jusqu'à quel point il fallait lâcher les rênes pour s'élever et les ramener pour descendre, comment enfin il pourrait toujours être maître des guides et régler l'ardeur de ses coursiers. Je lui dis à quel danger il s'exposait s'il ne suivait pas la ligne droite, mais lorsque cet enfant, car c'en est un véritable, se vit debout au milieu d'un si grand feu et plongea ses regards dans le gouffre béant, il fut saisi d'un effroi facile à concevoir. Les chevaux, sentant qu'ils n'avaient plus affaire à ma main, méprisèrent celle du jeune homme, se détournèrent de la route et causèrent tous ses malheurs. C'est alors que, craignant sans doute de tomber, il lâcha les rênes pour se retenir au bord du char. Mais il porte maintenant la peine de sa témérité, et moi, Jupiter, j'éprouve une douleur qui doit te suffire. Me suffire, dis-tu? Après une telle audace, je veux bien toutefois t'accorder ton pardon, mais si dorénavant tu te permets une pareille infraction, si tu envoies à ta place un conducteur de cette espèce, tu sauras aussitôt que le feu de mon tonnerre est plus brûlant que le tien. Cependant, que ses sœurs l'envelissent au bord de l'Éridan, à l'endroit où il est tombé de son char, qu'elles versent sur lui des larmes d'ambre, et qu'elle soit changée en peuplier en mémoire de cet événement. Pour toi, raccommode ton char, dont le timon et l'une des roues sont brisées, attelle tes chevaux, recommence la carrière, et surtout, souviens-toi de toutes mes recommandations.
Sixième dialogue, Jupiter et Ganymède.
Voyons, Ganymède, nous sommes arrivés en lieu sûr. Embrasse-moi pour t'assurer que je n'ai plus ni bec crochu, ni serres aiguës, ni ailes. Enfin, que je ne suis plus un oiseau comme je le paraissais. Ganymède.
Oui, tu es homme. Mais tout à l'heure, n'étais-tu pas aigle lorsque, t'abattant sur moi, tu m'as enlevé du milieu de mon troupeau? Comment tes ailes se sont-elles fondues? Comment as-tu pris tout à coup une autre forme?
Mais je ne suis pas un homme comme tu le crois, mon garçon, ni un aigle. Je suis le roi de tous les dieux, et je me suis métamorphosé pour la circonstance.
Que dis-tu? Tu es notre dieu Pan? Pourquoi donc alors n'as-tu ni flûte, ni corne, ni jambes velues?
Tu crois qu'il n'y a que ce dieu-là?
Sans doute, et nous lui sacrifions un bouc entier, que nous conduisons à la caverne où s'élève sa statue. Mais toi, tu me parais être un voleur d'enfants. Dis-moi, n'as-tu jamais entendu le nom de Jupiter? N'as-tu jamais vu sur le Gargarus l'autel du dieu qui envoie la pluie, le tonnerre et les éclairs?
Ah, c'est donc toi, excellent dieu, qui nous a dernièrement accablés de tant de grêle. Toi que l'on dit habiter là-haut, toi qui fais tant de tracas, et à qui mon père a sacrifié un bélier. Mais quel mal t'ai-je fait pour m'enlever ainsi, roi des dieux? Peut-être les loups ont-ils déjà mis en pièces mes brebis qu'ils ont trouvées seules.
Tu songes encore à ton troupeau, quand tu es devenu immortel, destiné à vivre ici avec nous.
Que dis-tu, tu ne me feras pas redescendre aujourd'hui sur l'Ida?
Pas le moins du monde. Ce n'est pas pour rien que ma divinité s'est changée en aigle.
Mais mon père me cherchera et se fâchera quand il m'aura découvert et je serai battu pour avoir abandonné mon troupeau.
Et où pourra-t-il te voir?
Non, je veux retourner près de lui. Si tu m'y reconduis, je te promets qu'il te sacrifiera un autre bélier pour prix de ma rançon. Nous en avons un qui a 3 ans, qui est fort et qui conduit le troupeau au pâturage.
Que ce garçon est simple et naïf! Que c'est bien un véritable enfant! Allons, Ganymède, dis adieu à tout cela, oublie le passé et ton troupeau et le mont Ida. Te voilà habitant du ciel, et tu pourras d'ici répandre les bienfaits sur ton père et sur ta patrie. Au lieu de fromage et de lait, tu mangeras l'ambroisie et boiras le nectar. C'est toi qui le verseras et qui viendras nous l'offrir. Mais destinée plus belle encore, tu cesseras d'être homme pour devenir immortel. Je ferai briller ton astre du plus vif éclat. Enfin, tu seras au comble du bonheur.
Mais si je veux jouer, qui jouera avec moi? Sur le mont Ida, nous étions beaucoup d'enfants du même âge.
Ici, tu auras pour compagnon de jeu l'amour, avec beaucoup d'osselets. Seulement, tranquillise-toi, le sois gai, ne regrette rien des choses de la terre.
À quoi donc pourrais-je vous être utile? Me faudra-t-il garder les troupeaux?
Non, non, tu seras notre échanson. Tu auras l'intendance du nectar et le soin du banquet.
Oh, cela n'est pas difficile, car je sais comme il faut verser le lait et présenter la coupe.
Bon, oh, le voilà qui songe encore à son lait et s'imagine qu'il va servir des hommes. Mais c'est ici le ciel! Et nous buvons, je te l'ai dit, le nectar.
Est-ce meilleur que le lait, Jupiter?
Tu le sauras avant peu, et lorsque tu en auras bu, tu ne regretteras plus le lait.
Mais où coucherai-je la nuit? Sera-ce avec mon camarade l'amour?
Non, pas. Je t'ai enlevé pour que nous dormions ensemble.
Oh! Tu ne peux pas dormir seul, et tu trouves plus agréable de dormir avec moi?
Sans doute, surtout quand on est joli garçon, comme tu l'es, Ganymède.
Mais comment ma beauté te fera-t-elle mieux dormir?
C'est un charme puissant et qui rend le sommeil plus doux.
Cependant, mon père se fâchait contre moi quand nous couchions ensemble. Et il me racontait le matin comment je l'avais empêché de dormir, en me retournant, en lui donnant des coups de pied, en rêvant tout haut. Aussi m'envoyait-il souvent dormir auprès de ma mère. Je te conseille donc, si tu m'as enlevé pour cela, comme tu le dis, de me redescendre sur la terre, autrement Tu auras fort affaire à ne pas dormir et je t'incommoderai en me retournant sans cesse.
Tu ne peux rien faire qui me soit plus agréable que de me tenir éveillé avec toi, car alors je ne cesserai de te donner des baisers et de te serrer dans mes bras.
Oh, tu verras, moi, je dormirai pendant que tu me donneras des baisers.
Nous saurons alors ce qu'il faudra faire. Bon, maintenant, Mercure, emmène-le, fais-lui boire l'ambroisie et ramène-le ensuite pour nous servir des chansons. Seulement, apprends-lui d'abord comment il faut présenter la coupe.
Dialogue 7 entre Junon et Jupiter. Depuis que tu as amené ici ce jeune Phrygien que tu as enlevé de Lyda, il me semble, Jupiter, que tu fais moins attention à moi.
Et quoi, Junon, en es-tu jalouse? Il est si simple, si inoffensif. Je croyais que tu ne te fâchais que contre les femmes que j'avais pour maîtresse.
Tout cela n'est ni beau ni convenable. Toi, le maître souverain des dieux, tu me laisses, moi qui suis ta femme légitime, pour aller courir en bas les aventures galantes, transformées en or, en satyre ou en taureau. Toutefois, ces maîtresses demeurent sur la terre. Mais ce jeune pâtre de Lyda, que tu as enlevé sur tes ailes, ô toi le plus vaillant des dieux, le voilà fixé chez nous et toujours sur notre tête, sous prétexte des chansonneries. Manques-tu donc des chansons? Hébé et Vulcain sont-ils là de nous servir? Mais tu ne prendrais jamais la coupe de ses mains sans l'avoir d'abord embrassée sous les yeux de tout le monde, et ce baiser te semble plus doux que le nectar. C'est pour cela que souvent, sans avoir soif, tu demandes à boire. Quelquefois même, au content de goûter la coupe, tu la lui rends aussitôt, puis quand il a bu, tu la lui redemandes pour boire le reste du breuvage qu'il y a laissé du côté où se sont posées ses lèvres, afin de boire et de baiser tout ensemble. Dernièrement, enfin, toi, le roi, toi, le maître des dieux, tu as déposé ton égide et ta foudre pour jouer aux osselets avec lui, malgré cette longue barbe qui te pend au menton. Oui, je vois tout cela, et tu ne dois pas songer à m'échapper.
Et quel mal y a-t-il, Junon? Embrasser en buvant un si joli garçon, à me plaire tout ensemble au baiser et au nectar. Ah, si je lui permettais de t'embrasser une fois, tu ne me reprocherais plus de trouver le nectar moins doux que ses baisers.
Voilà les discours de nos amateurs de garçons. Moi, je ne serai jamais assez folle pour toucher des lèvres ce molle enfant de la Phrygie, tout efféminé qu'il est.
Cessez, très noble dame, d'insulter à mes amours. Cet efféminé, ce barbare, est enfant plein de mollesse, mais plus agréable et plus désirable que, je veux pas dire qui, de peur de vous irriter davantage.
Il ne vous manque plus que de l'épouser pour me plaire. Souvenez-vous de votre conduite indigne envers moi à propos de cette chanson.
Non, ce n'est pas lui qu'il fallait choisir pour vous verser à boire, mais Vulcain, votre fils boiteux, sortant de sa forge tout couvert de limailles brûlantes et déposant à peine ses tenailles. C'était de ses doigts même qu'il fallait recevoir la coupe. C'était lui qu'il fallait tirer à nous et embrasser, lui dont vous qui êtes sa mère ne pouvez sans répugnance baiser le visage, tout barbouillé de suie. Ah, voilà qui serait agréable, n'est-ce pas? Voilà un des chansons bien faits pour la table des dieux. Il faut renvoyer Ganymède au mont Ida, mais il est propre, il a les doigts roses. Il est adroit à présenter la coupe et, ce qui vous chagrine le plus, il a des baisers plus doux que le nectar.
Aujourd'hui, Jupiter, Vulcain, te paraît boiteux. Ses doigts ne sont pas faits pour la coupe, il est tout noir de suie, et sa vue te donne la nausée, depuis que Lida nous a produit ce beau garçon aux longs cheveux. Jadis, tu ne voyais rien de tout cela, et la limaille brûlante et la forge ne t'empêchaient pas de recevoir le breuvage de ses mains.
Tu te fais du chagrin toi-même, Junon, sans autre profit que d'accroître mon amour par ta jalousie. S'il te fâche de prendre la coupe des mains de ce gentil garçon, fais-toi servir par ton fils. Et toi, Ganymède ne présente la coupe qu'à moi seul. Et chaque fois, tu me donneras deux baisers, d'abord en me la présentant pleine, et puis en me la reprenant. Et quoi, tu verses des larmes, on ne craint rien. Je ferai pleurer celui qui voudra te faire de la peine.
Dialogue 8 entre Junon et Jupiter. Tu vois cet Ixion, Jupiter? Quelle idée as-tu de ses mœurs?
Je le crois un galant homme, Junon, et un joyeux convive. Nous ne l'aurions pas à notre table s'il n'était pas digne de s'y asseoir.
Eh bien, il n'en est pas digne. C'est un insolent qu'il ne demeure plus dans notre société.
Quelle insolence a-t-il commise? Il faut, je pense, que j'en sois instruit.
Quelle insolence? La pudeur m'empêche de le dire. Son audace est d'une nature.
Eh bien, il faut d'autant plus me le dire que son entreprise a été plus téméraire. A-t-il voulu séduire quelque déesse? Car je crois deviner que c'est là le crime honteux que tu n'oses avouer.
Oui, et c'est moi, et non pas une autre, Jupiter. Et il y a déjà quelque temps. D'abord, je ne pouvais m'expliquer pourquoi il avait sans cesse les yeux fixés sur moi. Il poussait des soupirs, il versait des larmes. Si parfois, après avoir bu, je rendais la coupe à Ganymède, il la lui demandait pour boire dans le même vase que moi. Puis après l'avoir reçue, il y appliquait ses lèvres, l'approchait de ses yeux et tournait de nouveau ses regards vers moi. Je compris dès lors que tout cela n'était que truchement d'amour. Et pendant longtemps, j'eus honte de t'en parler, espérant que cet homme ferait trêve à sa folie. Mais du moment qu'il a osé me tenir d'amoureux propos, je l'ai laissé tout en larmes, se roulant à mes genoux. Je me suis bouché les oreilles pour ne pas entendre ses injurieuses prières, et je suis venu te dire ce qu'il en est. Vois maintenant toi-même comment te venger du galant.
À la bonne heure, le scélérat! S'attaquer à moi, à la couche de Junon? S'était-il donc si bien enivré de nectar? Mais aussi c'est notre faute, et nous avons tort d'aimer les hommes au point de les faire asseoir à notre table. Ils sont excusables lorsque, abreuvés de la même boisson que nous, voyant des beautés célestes et telles qu'ils n'en voient point sur la terre, ils désirent en jouir et se sentent pris d'amour. L'amour est un maître tyrannique, il ne règne pas seulement sur les hommes, mais parfois aussi sur nous.
Il se montre bien ton maître, il te fait aller, il te mène, comme on dit, par le bout du nez. Et tu le suis partout où il lui plaît de te conduire, il te fait changer en tout ce qu'il veut. En un mot, tu es l'esclave et le jouet de l'amour. Et je sais bien pourquoi tu pardonnes aujourd'hui à Ixion. C'est qu'autrefois, toi-même, tu as séduit sa femme, qui t'a rendu père de Pirithoeus.
Tu te souviens encore des parties de plaisir que je suis descendu faire sur la terre? Maintenant, sais-tu ce que je veux faire d'Ixion? Le châtier non pas, ni le renvoyer de notre table. Ce ne serait pas poli. Puisqu'il est sérieusement amoureux, puisqu'il pleure, dis-tu, et souffre des maux cruels.
Que vas-tu dire? Que vas-tu dire? J'ai peur que tu ne me fasses à ton tour quelque proposition outrageante.
Pas du tout.
Nous allons former avec une nuée un fantôme qui te ressemble. Et quand le repas sera fini, lorsque l'amour, suivant toute apparence, le tiendra éveillé, nous porterons ce fantôme et le ferons coucher près de lui. Ainsi se calmeront ses douleurs quand il croira tenir l'objet de sa passion.
Fi donc, qu'il lui arrive malheur pour avoir désiré ce qui est au-dessus de lui.
Laisse un peu faire, Junon. Qu'as-tu à craindre de ce fantôme, puisque c'est une nuée qu'Ixion caressera?
Oui, mais cette nuée semblera être moi-même, et la honte retombera sur moi à cause de la ressemblance.
Ce que tu dis ne signifie rien. Jamais une nuée ne pourra être Junon, ni Junon une nuée. Ixion tout seul sera bien attrapé.
C'est juste. Seulement, comme tous les hommes sont mal élevés, il se vantera sans doute, une fois redescendu sur la terre, et ira disant partout qu'il a obtenu les faveurs de Junon et partagé la couche de Jupiter. Peut-être même dira-t-il que je l'aime, et les autres le croiront, ne sachant pas qu'il n'a caressé qu'une nuée.
Alors, s'il tient de semblables propos, je le plonge dans les enfers, je l'attache à une roue qui tournera sans cesse, je lui inflige un supplice éternel et il portera la peine non de son amour, la faute légère, mais de sa jactance.
Dialogue 9 entre Junon et Jupiter. J'aurais honte, Jupiter, d'avoir un fils comme celui-là, si efféminé, si corrompu par l'ivresse, les cheveux retenus par un ruban. Il se plaît à vivre avec des femmes à moitié folles, qu'il surpasse en mollesse, dansant au son des tambours, des flûtes et des cymbales. Vraiment, il ressemble à tout autre plutôt qu'à toi, à son père.
Cependant, ce fils, coiffé comme les femmes qu'il surpasse en mollesse, non seulement Junon, il a soumis la Lydie, pris les habitants de Timolus et séduit les Thraces, mais lançant sur les Indiens ses bataillons féminins, il s'est emparé des éléphants, s'est rendu maître du pays et a fait prisonnier le roi, qui avait osé lui résister quelque temps. Et tout en empérant ses prodiges, il a continué de sauter, de danser, d'avoir en main des tirs entourés de lierre, de se livrer, comme tu le dis, à l'ivresse et à la folie. De plus, si quelqu'un a essayé de lui dire des injures et d'insulter à ses mystères, il l'a puni en l'enchaînant dans les liens de pampre ou en le laissant déchirer par sa propre mère comme un faon. Tu vois que ce sont là des actes virils et dignes de son père. Si maintenant il y mêle des jeux et des plaisirs, on ne peut lui en faire un crime. Surtout dans son genre, à ce dont il serait capable sans boire, lui qui fait de pareilles choses après avoir bu.
Il me semble que tu vas aussi vanter sa découverte de la vigne et du vin. Et cela quand tu vois ce que font les gens ivres, quand ils chancellent, se livrent à l'insolence et deviennent fous par la boisson. Témoin Icarius, auquel il fit le premier don du pampre, et que tuèrent ses compagnons de table en l'assommant à coups de pioche.
Ce que tu dis là ne prouve rien. Ce n'est ni levain ni Bacchus qui agit ainsi. C'est l'excès de la boisson, c'est l'usage immodéré et honteux du vin pur. Au contraire, celui qui boit modérément n'en devient que plus gai et plus aimable. Et ce qui est arrivé à Icarius n'arrivera jamais à de tels buveurs. C'est un reste de jalousie, Junon.
qui te vient du souvenir de ses mêlées et te fait blâmer les belles qualités de Bacchus.